Je suis paysagiste, formée à la conception et au projet, et j'ai voulu donner à cette présentation la forme d'un cheminement de pensée plutôt libre, juxtaposer et confronter les intuitions, les faits historiques, les courants de pensée, les images de paysage, dans une sorte de rapport d'étonnement. Je vais introduire mon propos en comparant deux projets de paysage achevés à une année d'intervalle. Un projet que vous connaissez tous, le parc des Buttes Chaumont, qui est un parc exemplaire de la période du Second Empire en France, et un autre projet, sorte de produit exemplaire de la pensée de paysage américaine de la même époque, le barrage du gouffre d'enfer à Saint-Étienne. La spécificité de ce projet invite à interroger le jeu des influences qui ont conduit à sa création dans la chronologie du XIXe siècle en France et de l'autre côté de l'Atlantique. Le parc des Buttes-Chaumont est inauguré pour l'exposition universelle de 1867 dont on vient de parler. Il est dessiné par Alphand, ingénieur ponts et chaussées, et Barrier Deschamps, jardinier. Et c'est une des pièces maîtresses des travaux d'embellissement de Paris. On a là un jardin en forme de prouesse qui transforme la zone insalubre de la butte Saint-Chaumont en un lieu féerique, selon l'expression même qu'utilise Alphand, et où les progrès techniques de l'époque sont mis en scène dans un décor à l'artificialité assumée, où la nature est remodelée, améliorée, embellie. Ainsi, le front de taille de la carrière est-il entièrement sculpté, puis rehaussé de reliefs en ciment armé, afin d'en augmenter la valeur pittoresque. Ce même ciment armé, on le retrouve, il sert à fabriquer les rambardes d'escalier qui imitent le bois, les rochers de la cascade, les stalactites de la grotte. Tandis qu'on utilise la fonte pour fabriquer des entourages de pelouse qui reproduisent des plaissages en bois de châtaignier. La fabrique du pittoresque, à la recherche du contraste, juxtapose l'esthétique industrielle de la passerelle d'Eiffel avec les formes rugueuses du promontoire et des rocailles. Le goût de l'exotisme du chalet suisse côtoie la référence à l'antique du temple de la Sibylle. Cette réalisation s'inscrit dans un art des jardins d'écriture picturale, hérité de l'aristocratie et de la tradition anglaise du jardin paysager. Et encore penser en termes de style. En 1859, lors d'un voyage en Europe, Frédéric Law Olmsted visite l'aménagement du bois de Boulogne, réalisé par les mêmes Alphand et Barrier Deschamps de 1855 à 1860, et voici ce qu'il en dit. Napoléon III vit dans l'état d'abandon du bois de Boulogne l'opportunité d'en faire un de ses coups d'éclat. Des rochers de Fontainebleau furent sélectionnés, éclatés en fragments transportables, déplacés sur les berges des lacs, puis réassemblés dans leur forme originale. Ceci, additionné de roches artificielles, fabriquées avec du ciment, fournit des morceaux de paysages très pittoresques. Chaque assemblage de rochers, bien qu'excellent en lui-même, est une composition plaquée sur le paysage du bois. La pièce principale tient plus d'une scène de conte lyrique qu'à quoi que ce soit de naturel. De par ses dimensions, qui lui évitent d'apparaître comme grotesque ou enfantin, on peut considérer qu'elle a été conçue dans un style original qu'on pourrait qualifier de romantique. On le voit, Olmsted met surtout l'accent sur la recherche esthétique stylistique et sur le caractère fictionnel de l'aménagement. Le barrage du gouffre d'enfer, conçu par l'ingénieur des ponts et chaussées Auguste Graeff, est achevé en 1866, un an avant le parc des Buttes-Chaumont. Et pour bien comprendre le sens et l'importance de ce projet, il faut s'intéresser à l'histoire et à la géographie stéphanoise. Donc Saint-Étienne va devenir la ville de la révolution industrielle en France grâce à la force hydraulique de sa modeste rivière, le Furan, qui dévale le contrefort nord du massif du Pilat. Donc vous avez ici le massif montagneux du Pilat, ici le bassin mouillé dans lequel va s'installer Saint-Étienne, et ici la Loire et le Rhône. Au XIXe siècle, on compte sur le cours du Furan de 30 km, 489 barrages, actionnant 218 roues dans 108 usines. L'industrie se développe le long de la vallée, elle investit le massif et la ville occupe le piémont. Cet équilibre va être rompu lorsqu'on se rend compte de la présence d'un filon houillé en piémont du Pilat. 192 puits de mines sont exploités dans la ville même, à proximité desquels s'implantent les aciéries, les fours à coke, les centaines de laminoirs d'aciéries, etc., etc. Cette combinaison à la fois de la force hydraulique et de la ressource minière fait de Saint-Étienne une ville noire totale. Jean Guiton, philosophe et écrivain né à Saint-Étienne, en donne cette description que je trouve extrêmement parlante. Saint-Étienne a grandi monstrueusement en un siècle. La ville nourrit 200 000 habitants à plus de 500 mètres au-dessus du niveau de la mer et dans un décor de montagne. Elle a poussé comme les villes de chercheurs d'or autour d'un axe absolument droit sur 6 km. Le charbon qu'on trouvait d'abord au ras du sol, il a fallu en suivre les filons sous les habitations et la ville se trouve bâtie sur des galeries de mines. Elle est secouée, elle tremble pour ainsi dire toujours. Et il faut bien se rendre compte à quel point cette ville est noire, est polluée, est éventrée. Il n'y a plus un arbre à des kilomètres à la ronde et les crues s'abattent sur la ville à un rythme croissant. En témoignent donc ces vues prises dans les années 1890 par Félix Thiollier, un photographe stéphanois. Mais c'est surtout le manque d'eau potable qui va poser le plus de problèmes. Et au milieu du 19e siècle, un point de rupture est atteint. La municipalité décide que l'eau, qui était devenue l'apanage exclusif de l'industrie, doit être restituée à l'usage public. Il s'agit de mener à bien l'aménagement hydraulique de la vallée, capter l'ensemble des sources, acquérir et reboiser massivement le bassin jusqu'à former la plus grande forêt communale de France, construire un aqueduc et construire un barrage réservoir. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est que la conception de cet équipement, qui représente une avancée sociale et une avancée technologique, on a le plus haut barrage maçonné au monde, se double d'un projet de paysage. On aménage comme nouvelle porte d'entrée sur le massif un majestueux boulevard planté de 2 km de long et de 50 mètres de large, le cours Foriel. À son extrémité vient se rattacher l'aqueduc des sources, que l'on parcourt à pied, au son de l'eau qui circule dans la conduite souterraine. À 6 km, on rencontre le lieu le plus spectaculaire de la vallée, le gouffre d'enfer, et un défilé étroit et sombre, encadré d'escarpements rocheux. Le parcours, dont voici un relevé, va alors s'intensifier autour de l'ouvrage d'art et procurer aux promeneurs une expérience de paysage hors du commun. On avance dans ce défilé sur un étroit chemin accroché à la paroi, éclaboussé par l'eau qui jaillit de cascades. Ces cascades artificielles sont en fait des émanations particulièrement spectaculaires du système hydraulique. L'une jaillit de manière irrationnelle du sommet d'un éperon rocheux, c'est le début de fuite de la rivière prélevée dans le barrage. La seconde, beaucoup plus imprévisible, sert à évacuer l'eau lors des crues. On est ensuite guidé au milieu d'un amas rocheux dans le lit asséché de la rivière, puis brusquement le parcours oblique, et on se heurte au mur oppressant du barrage face à la masse d'eau derrière le mur. On s'échappe par un escalier de fuite, presque invisible au premier abord, qui s'accroche au rocher, rejoint le haut du mur et conduit à un belvédère dominant toute la vallée. Il y a là des terrasses et des bancs taillés à même la roche qui permettent de regarder l'ouvrage dans le paysage. D'un côté le mur, le défilé sombre et étroit, et de l'autre l'étendue d'eau en pleine lumière. Sur cette photo, il n'y a plus d'eau dans le barrage. Mais... On poursuit le long d'un cours d'eau perché dans un canal sculpté à même le coteau, le lit de la rivière à des dizaines de mètres plus bas. J'arrête là la description, mais le chemin, lui, il se poursuit sur 11 km jusqu'aux sources du Furon. Car le système hydraulique est le point de départ d'une logique de préservation qui va s'étendre à tout le bassin versant et qui contraint les industries et l'agriculture à quitter la vallée. Le massif, auparavant front pionnier, est dorénavant le pendant préservé de la ville noire, un parc public en dehors de la ville qui s'impose comme un lieu essentiel de sociabilité, de loisirs et de dépaysement. Dans ce projet, la technologie s'offre à la contemplation sous la forme d'un paysage. L'aménagement tire parti des qualités du site dans une sorte de fusion avec la nature. La transformation hydraulique de la vallée ne se donne pas à voir comme une démonstration de force, mais plutôt comme la célébration d'une nature libérée qui aurait retrouvé sa force d'expression. Nulle part au gouffre d'enfer, on a recours à l'allégorie, à l'architecture de style, au contraste du rugueux et du lisse qui crée le pittoresque. La démarche à l'œuvre ne reflète pas la pensée de paysage qui prévaut alors en France et qui s'intéresse alors exclusivement à l'embellissement de la ville et des propriétés foncières. Pour illustrer cette pensée, je citerai un extrait de L'Art des Jardins, traité de 1879 d'Édouard André, un des plus célèbres paysagistes de l'époque. Il y étudie la théorie et la pratique d'un art qu'il qualifie ainsi. L'art aimable et charmant qui consiste à embellir nos résidences de ville et de campagne en s'inspirant de la nature et en nous servant des moyens qu'elle met à la disposition de l'homme de goût. Au lieu de peindre à nos yeux la nature par le langage ou le dessin, c'est avec les éléments mêmes du paysage qu'opère la composition des jardins. Le sol et sa toile, les arbres, les fleurs et les gazons, ses couleurs. Son but est de charmer nos regards et d'émouvoir doucement notre âme en empruntant à la création ses plus agréables scènes, en ajoutant à son harmonie et à sa variété, en faisant valoir ce qu'elle a de plus beau, en supprimant ou en dissimulant ses défaillances. Je pense qu'au gouffre d'enfer, à l'endroit et au moment du climax du phénomène industriel en France, on prend conscience que le modèle parisien n'est plus pertinent, ni techniquement, ni idéologiquement, et qu'il faut aller chercher ailleurs un modèle de pensée opérant. Et la recherche de ce modèle, aussi bien sur le plan de l'ingénierie que du paysage, conduit forcément aux États-Unis. Alors, Fairmont Waterworks est le système d'adduction d'eau de la ville de Philadelphie. Il est conçu par l'ingénieur Frederick Graff de 1812 à 1822. C'est un projet d'ingénierie civile intégré dans un parc qui va se développer en tant que tel pour devenir le premier parc public des États-Unis. Le système hydraulique est intégré dans un ensemble architectural de style néo-grec, autour duquel va se composer le parc, incarnation d'une nature arcadienne et idyllique. Ce parc, bien qu'initialement à bonne distance de la ville, offre toutes les aménités d'un parc public et comprend bassins de navigation, appontements, kiosques et fabriques, belvédères et fontaines. Pour mieux intégrer la modernité de son objet, le système hydraulique, sa machinerie et ses rouages, Graff choisit de composer une image de parc classique, image très picturale, qui fera d'ailleurs l'objet de nombreuses représentations. Ce projet de Fairmont va marquer les prémices du développement d'une landscape engineering et d'une réflexion sur l'intégration des ouvrages d'art et leur capacité à former de nouveaux paysages. Près de 20 ans après l'expérience de Fairmont et 20 ans avant l'aqueduc de Saint-Étienne, un autre projet va marquer une étape supplémentaire, c'est la réalisation de 1837 à 1842 du Croton Aqueduct, pièce maîtresse du système d'adduction d'eau potable de la ville de New York. On le doit à David Bates Douglas, un ingénieur formé et enseignant à West Point, professeur de Natural Philosophy, une discipline qui inclut aussi bien les sciences naturelles, l'architecture et l'ingénierie. En 1820, il part à la recherche des sources du Mississippi au sein de la Lewis-Cass Expedition. De 1833 à 1836, il est l'ingénieur en chef du Croton Aqueduct. Et en 1838, il conçoit le cimetière de Greenwood à Brooklyn, l'un des premiers rural cemeteries qui inspira le rambling de Central Park. L'aqueduc gravitaire du Croton achemine sur 40 miles l'eau de la Croton River jusqu'au réservoir de Central Park en longeant la vallée de l'Hudson. Et le projet va associer à cet ouvrage d'art des usages publics et lui donner la forme d'une promenade entre la ville et l'hinterland new-yorkais, promenade tour à tour rythmée par les natural et les technical features. On voit ici la High Bridge Water Tower, qui est en fait une station de pompage. Le projet tire parti du paysage existant afin de constituer des lieux de contemplation et de loisirs, des lacs, des parcs, des réservoirs, des belvédères, des ponts, parmi lesquels on peut citer le Croton Lake, le Sing Sing Kill Bridge, High Bridge, sa tour et son parc, les réservoirs belvédères de New York. Le parc n'est plus, comme à Fairmont, un lieu composé et circonscrit autour de l'ouvrage d'art, mais plutôt l'environnement dans lequel il se déploie en servant de support d'exploration. Les illustrations et les citations qui vont suivre sont tirées d'un ouvrage de 1843 intitulé Illustrations of the Croton Aqueduct, qui est un descriptif complet de l'aqueduc par F.B. Tower, ingénieur qui a travaillé à sa réalisation. Je le cite. Tout au long de l'aqueduc du Croton se déploie une promenade piétonne depuis le réservoir jusqu'aux collines de Croton. En plus d'apprendre à connaître les fonctions importantes de l'ouvrage, le voyageur qui visite le pays pourra profiter de ce qui est beau dans le paysage américain. Dans son parcours le long de l'aqueduc, il pourra voir les majestueuses palissades qui bordent la rive droite de l'Hudson, il pourra voir les baies de Tappan et de Haverstraw avec leur paysage sans cesse changeant et la gorge sombre d'où l'Hudson émerge des Highlands. À propos d'une section de l'aqueduc qu'il trouve particulièrement admirable, ce lieu est empli de la beauté et du caractère sauvage de la nature. Les bois se tiennent tout près de l'ouvrage. Les vignes sauvages vont bientôt grimper sur les murs et les recouvrir. La végétation va s'amonceler sur l'ouvrage jusqu'à ce que la nature et l'art harmonieusement s'épousent. Et enfin, à propos du Harlem River jet d'eau, un jet de 35 mètres de hauteur obtenu grâce à la pression des 60 cm d'eau de l'aqueduc, donc je le cite, c'est ici qu'elle se tient, une colonne blanche s'élevant de la rivière, érigée, changeant de forme, ondulant comme un arbre de la forêt balayé par le vent. Tandis que sur chaque rive, les collines boisées émergent pour rivaliser avec sa hauteur. Tout alentour est nature, pas de bassin en marbre, pas de figures allégoriques forgées avec un art exquis pour l'attrait de l'œil, mais une fontaine que la nature part de la grandeur de son paysage de montagne et de la beauté de ses rudes collines. Il est vraiment frappant de voir dans un ouvrage d'ingénierie de 150 pages de telles illustrations et considérations émailler un descriptif technique et économique, par ailleurs très pointu, à destination d'un public avisé. Tower témoigne de la volonté évidente de concevoir conjointement au projet d'ouvrage d'art un projet de paysage et d'espace public, et il manifeste une sensibilité au paysage et à la wildness, comme il le dit, sensibilité d'autant plus remarquable si on la compare aux écrits et aux dessins qui rendent compte du projet du gouffre d'enfer, qui n'outrepasseront jamais le cadre strictement technique. Les ingénieurs américains du Croton font traduire leurs ouvrages descriptifs de l'aqueduc en français et en allemand, et il faut souligner le foisonnement et la richesse des échanges entre les États-Unis et la France en matière d'ingénierie à l'époque. Ces échanges se font à travers la presse scientifique. Le magazine Scientific American, diffusé en Europe, rend compte des réalisations américaines à partir de 1845, mais aussi dans le cadre académique, notamment à West Point, seule école d'ingénierie des États-Unis pendant toute la première moitié du 19e siècle, où l'apprentissage du français est rendu obligatoire. On voit ici le New Croton Dam achevé en 1906, qui témoigne de la richesse de ces échanges, puisqu'on voit que le modèle de ce barrage est justement celui du gouffre d'enfer. On l'a vu, à Fairmont et au Croton se manifestent une pensée et une pratique du paysage résolument modernes qui vont prendre de vitesse le modèle européen. Cette pensée va d'abord essaimer dans le domaine de l'ingénierie, puis participer à la naissance du paysage comme discipline, touchant l'aménagement du territoire et la planification urbaine jusqu'à l'apparition d'une profession qui n'existe pas encore en France, celle de landscape designer. Et dans la formation de cette pensée, la découverte, l'exploration et la diffusion des paysages de la wilderness vont jouer un rôle capital. Depuis les années 1820, toutes les formes d'art convergent vers la représentation et la célébration de ces paysages. C'est là évidemment le moyen de construire une identité culturelle proprement américaine, mais au-delà de ça, c'est le rapport à la nature qui est interrogé à travers notamment l'influence du courant transcendantaliste, qui voit dans la nature une source d'inspiration capable de faire émerger une nouvelle pensée et de faire, selon le vœu d'Emerson, je le cite, que l'époque de dépendance et le long apprentissage par les États-Unis d'Amérique du savoir des autres pays touche à sa fin. Et il faut souligner que de nombreux ingénieurs et architectes américains du 19e ont justement embrassé ces idées transcendantalistes. Cette nouvelle pensée de paysage, on la retrouve très bien résumée par Thomas Cole, l'un des premiers peintres de paysage aux États-Unis, dans son essai « An American Scenery » paru en 1835. Il affirme la singularité du paysage américain, lui prête un effet bienfaiteur sur l'individu et sur la société, et lui prête des facultés d'inspiration et de tempérance. Il explique ainsi que le paysage américain, dont le caractère sauvage est le trait le plus distinctif et le plus saisissant, n'a rien à envier au paysage européen et qu'il se suffit à lui-même par sa nature primitive, sans avoir besoin du contrepoint de la ruine ou de l'antique, et qu'il devrait être pour chaque Américain un sujet d'intérêt majeur en tant que source inépuisable à laquelle chacun peut directement s'abreuver sans considération de classe ou d'éducation. Je le cite ici. Notre monde évolue à grands pas vers un état cultivé. Les ravages de la hache sont chaque jour plus importants, les plus beaux paysages détruits, et cela avec une débauche et une désinvolture à peine croyables de la part d'une nation civilisée. La prochaine génération contemplera des lieux aujourd'hui emplis de beauté, désacralisés par ce que l'on appelle le progrès, qui jusqu'à présent détruit la beauté de la nature sans lui substituer celle de l'art. L'esprit de notre société est de planifier et non d'apprécier, de travailler dur pour produire plus, d'accumuler le labeur pour s'agrandir. Seuls les plaisirs de l'imagination, parmi lesquels l'amour du paysage tient une place essentielle, pourront tempérer la dureté d'un tel état. Clairement, le paysage investi d'une dimension culturelle apparaît comme un moyen de tempérer l'exploitation sans limite des ressources du territoire. Et c'est bien, je pense, une prise de conscience similaire qui est à l'origine du projet du gouffre d'enfer. Autre figure majeure de cette pensée, Frederick Law Olmsted est sensibilisé à la question de l'Ouest américain quand il devient, en 1863, administrateur du domaine de Mariposa en Californie. Ce domaine est d'ailleurs l'objet de l'une des premières campagnes photographiques de Carlton Watkins. Là-bas, il fait le constat d'une société américaine tiraillée entre barbarie et civilisation et développe la thèse qui va être un élément récurrent de sa pensée, un élément central, d'un bienfait moral du paysage sur le développement, la santé et le bien-être de l'âme humaine. Tout comme Cole, il est convaincu que le paysage dans lequel une société évolue joue un rôle de tempérance pour l'amener vers la civilisation. En 1865, il est nommé premier commissaire de Yosemite. On le voit là sur une photo de Watkins, justement à Yosemite, devenu réserve inaliénable pour l'usage public, la détente et le loisir à la suite du Grand Acte de 1864. Et pour lui, préserver les plus beaux paysages de la wilderness ne suffit pas, encore faut-il les rendre accessibles à tous, et c'est là ce qu'il considère comme un devoir politique essentiel. Il consacre ainsi la majeure partie de son budget à construire une route reliant la vallée au dock de Stockton, avec deux objectifs, faire en sorte que le site soit visité par le plus grand nombre possible de gens et démocratiser le loisir d'extérieur. On retrouve les mêmes préoccupations développées à une échelle régionale et municipale à la base du Park Movement dans les années 1860. Les Scenic Reservations, reliées à la ville par des structures paysagères, constituent l'origine de la planification urbaine des futurs systèmes de parcs et de leurs parkways. Comme on a pu le voir, il est intéressant de noter l'importance des images dans la diffusion aux États-Unis et à l'étranger du modèle de la wilderness. En France, la diffusion de ces photographies opère particulièrement, puisque la campagne de Watkins à Mariposa, que j'ai déjà mentionnée tout à l'heure, photographiée en 1859, et qui compte parmi les toutes premières photos de paysages de l'Ouest américain, est montrée l'année suivante à Napoléon III et à des investisseurs. Il ne faut pas oublier que Watkins travaille, comme cela a été dit dans l'exposé précédent, pour l'industrie de minière et que la diffusion de ces photographies suit au départ les canaux du monde industriel. Donc sa campagne de Yosemite, on l'a vu, est montrée publiquement à Paris lors de l'exposition universelle de 1867. Il me semble qu'on retrouve dans le projet du gouffre d'enfer les enjeux que je viens de citer, c'est-à-dire le potentiel de tempérance du paysage, puisque ici la renaturation et la revalorisation du paysage viennent appuyer, augmenter le projet de reconquête hydraulique et spatiale qui met un coup d'arrêt à la toute-puissance de l'industrie. L'importance de l'accessibilité. L'accessibilité dans ce cas depuis la ville constitue une composante essentielle du projet. Et l'importance des images qui se confirment à Saint-Étienne et également, puisque en France, la ville pionnière s'invente au barrage une image très largement diffusée qui prend le contre-pied total de son image de ville noire. Donc là, vous avez des photographies du 19e siècle du barrage du gouffre d'enfer. Pour amorcer une conclusion, je crois qu'il faut évoquer la pensée d'Horace Cleveland. Très proche d'Emerson et des idées transcendantalistes, pensée qu'il expose dans un essai de 1873, l'architecture du paysage appliquée aux besoins de l'Ouest. Dans le premier chapitre intitulé « Inadequate Ideas of the Scope of Landscape Architecture », Cleveland déplore l'idée communément admise d'un landscape gardening qui serait cantonné à être un art décoratif. Il plaide pour substituer au terme de landscape gardening celui de landscape architecture et en donne la définition suivante. L'art de la subdivision et de l'arrangement du territoire pour l'adapter avec pertinence, économie et harmonie à tous les besoins de la civilisation. Et c'est précisément la question de l'Ouest que l'on retrouve à l'origine de cette volonté d'élargissement du champ d'action et des prérogatives du landscape architect. Pour Cleveland, les nouvelles régions de l'Ouest requièrent avant toute considération pour l'ornementation un vaste travail préliminaire qui est précisément le domaine du landscape architect et où réside la part la plus essentielle de son art. Sur la conquête de l'Ouest, il dresse le constat suivant. Les individus et les colonies pénètrent partout les frontières de cette vaste région, et comme le phénomène silencieux et inconscient de la croissance cellulaire, le germe croît vers ce que l'on sait être la complète occupation. Sur chaque ligne ferroviaire qui pénètre les régions de l'Ouest, le procédé mécanique d'usinage et de vente des villes se propage. L'application systématique de la grille dévaste le territoire et uniformise l'habitat, alors que l'intelligence humaine est faite pour s'adapter à son environnement. Les villes de l'Ouest se multiplient sur le même modèle, sans égard pour la topographie, sans anticipation des besoins futurs des habitants, sans effort pour s'assurer de la préservation des paysages naturels, qui sont pourtant une ressource inestimable pour donner aux lieux leur identité et leur caractère propre. Pour résumer et conclure, l'influence de l'Ouest américain est primordiale dans la pensée des deux paysagistes les plus novateurs et les plus influents de l'époque, Olmsted et Cleveland. Ceux-là même qui vont poser les bases d'une pratique qu'ils appellent landscape architecture ou landscape design, sans équivalent dans le monde et qui, me semble-t-il, a trouvé une résonance particulière dans le contexte de la révolution industrielle européenne.